Cette production n'a pas été sponsorisée par la SNCF. En revanche, l'entreprise m'a laissé carte blanche pour la réaliser. Merci infiniment pour la confiance témoignée.
Il est 20h42. Dans 14 minutes, j'arrive sur Saint-Marcellin. Je rentre de Lyon-Perrache, où j'ai pu participer à un duodé en compagnie d'un conducteur de train. Le duodé est un événement annuel qui permet à une personne en situation de handicap de partager une journée avec un professionnel au sein d'une entreprise, favorisant ainsi l'immersion professionnelle et la découverte de compétences potentielles. Mon expérience, c'est avec Tommy que je l'ai réalisé. Un petit voyage en cabine à bord d'un Régio d'Ozène entre Lyon-Perrache et Saint-André-le-Gaz. C'était juste dingue. Et de ce fait, j'ai très envie de vous en faire profiter. Moi, c'est Manu, et je vous souhaite la bienvenue dans Audio de bord.
Audio de bord.
Audio de bord.
Écoutez, découvrez, voyagez.
Un podcast immersif.
Produit par VPK Prod.
Produit par VPK Prod.
Départ Saint-Marcellin, 13h07 en 2MNG. Changement à Grenoble, arrivée 13h48. Départ 14h21, encore en 2MNG. Changement à la Verpillière. Arrivée 15h25, départ à 15h34 en Régio d'Ozène pour une arrivée à Lyon-Perrache à 16h01. C'est Sébastien qui me récupère à l'arrivée. Seb est CTT DPX Ligne, cadre transport traction, dirigeant proximité de Ligne. En un mot, il est responsable. Tommy, mon hôte du jour, lui, est CRL, conducteur de ligne. Ok, pour la SNCF, aime bien les acronymes et les abréviations. Accompagné de Seb et Tommy, je rejoins la cabine de tête de ce Régio d'Ozène pour assister à la PC, ou préparation courante.
Tu vas te mettre sur ta droite. Hop. Voilà, avec ce devant. Ah, tu vas, Manu, tiens, tu vas me donner tes mains. Ça, là, c'est l'outil dont se sert Tommy pour conduire, en fait. C'est une tablette. Tu le mets là, comme ça, tac, et puis après, il le positionne. Et
trop
puis
bien.
Après, il voit avec l'outil la desserte à réaliser, les vitesses, tout ça.
Donc, on n'est pas censé en louper.
Normalement. Mais c'est rare.
Donc là, je viens de déverrouiller mon pupitre. Les locomotives à l'ancienne, c'était une clé, la clé de boîte à levier qu'on tournait, qui a aussi un bruit assez... Et là, moi, j'ai une carte, ma carte de crédit avec une puce à l'intérieur qui m'est attitrée. Quand je la mets dans le boîtier, là, ça déverrouille le poste de conduite. Et c'est un pupitre, on va dire, aux normes européennes. C'est-à-dire que les derniers trains, maintenant, ils ont tous un peu le même type de pupitre avec les boutons à peu près aux mêmes endroits. On a des symboles qui sont à côté de chaque bouton. Qui sont reconnaissables peu importe quelle langue tu parles. Devant moi, j'ai quand même 4 écrans. J'ai des manomètres pour la partie pneumatique. Sur ma droite, j'ai des boutons pour gérer un peu la marche. Donc sens marche avant, marche arrière, le régulateur de vitesse, on va dire ça comme ça. La manette pour le manipulateur pour accélérer, freiner. Et sur ma gauche, j'ai la gestion des portes, la gestion du pantographe et la radio. Et j'ai donc un écran là que je suis en train de consulter, c'est le carnet de bord en fait. Dans ce carnet de bord, eh ben, on met tout ce qui va pas sur l'engin moteur, ce que les conducteurs précédents ont vécu, s'il y en a un qui a freiné d'urgence par exemple, il va écrire dedans pour que le matériel, quand il rentre au dépôt, puisse vérifier que tout va bien sur les roues, qu'il n'y ait pas de plat, etc. Si j'ai une panne, je vais écrire dedans ce qui s'est passé, si j'ai dû dépanner, je vais dire ce que j'ai fait, est-ce que j'ai résolu la panne ou pas. Je suis aussi en train de noter, tu vois, quand vous entendez Simone à l'intérieur des trains, là j'ai une partie où je vais rentrer un code spécial pour ce train. Je lui dis que je vais à Saint-André-le-Gaz et que je fais le 16h27 en gros. Et c'est préenregistré à l'intérieur, elle connaît toutes les gares desservies. Voilà, ça y est, c'est activé. Et en gros, 5 minutes avant le départ, elle va dire qu'on va à Saint-André-le-Gaz, elle va dire toutes les gares desservies. quand on est parti, elle va rappeler la prochaine gare desservie. Et à chaque arrêt, tu vas entendre, peut-être moins en cabine de conduite, mais les voyageurs vont entendre qu'ils sont à Jean Massé, que le prochain arrêt c'est Saint-Priest, Vénissieux, pardon, et que le train est à destination de Saint-Ouen-le-Gaz. Et la dernière opération que je fais, donc j'ai un petit clavier devant moi là, on a une fiche qui était papier avant, maintenant elle est informatisée. Et dedans, j'ai mon code de cheminot, on a tous un code, d'identification, tu vois, un code d'immatriculation personnel. Je mets ce code pour dire que c'est moi qui conduis ce train, à quel établissement j'appartiens, d'où je pars, où je vais, et le numéro du train. Et ça, c'est enregistré dans une base de données qui ressemble un peu aux boîtes noires dans les avions. Toutes les actions qu'on va faire en cours de route, les boutons, les vitesses à laquelle je vais circuler, à quel moment je vais freiner, etc. Les échanges avec la signalisation, tout ça va être enregistré. Et ensuite, c'est consultable en gros sur un serveur par les cadres en traction. Et pour vérifier comment on travaille, ou en cas d'événement, pour vérifier ce qui s'est passé, et notamment si j'ai appliqué la procédure, si j'ai fait ce que je devais faire, et si j'ai pas fait de bêtises. Sur ma gauche, là, j'ai encore d'autres écrans, parce que je t'ai un peu menti, je t'ai dit qu'on avait 4 écrans, mais c'est vraiment sur la partie du pupitre. Et un peu plus haut, à ma gauche, j'ai 2 télés, en gros. Et là, j'ai une rétrovision, on appelle ça la rétrovision. J'ai accès aux images de ce qui se passe sur le quai, du côté où les portes sont ouvertes.
Parce que là, c'est toi qui vas faire la gestion d'ouverture et de fermeture, du
oui.
coup.
Là, on va passer à la petite partie mise en route du système de freinage. Donc, c'est vide d'air. Là, on va l'alimenter en air. On fait 2-3 vérifications. Là, on va faire l'essai de la veille automatique. Donc, la veille automatique, lui, bah, si je touche pas aux appuis, donc j'ai un appui sur mon manipulateur de traction, j'ai des appuis au pied, des pédales. Si je les maintiens pas, si j'appuie pas dessus, si je les relâche, au bout de 2 secondes 5 à peu près, tu as un bip que tu as entendu là, un son. Et si je réagis pas, 2 secondes 5 plus tard, il freine d'urgence le train et il ouvre le disjoncteur. Donc si je suis en train de tractionner, ça coupe l'effort de traction et ça freine au maximum le train. Et il y a même un petit plus, c'est que par la radio, ça envoie aussi une alerte en gros au gestionnaire de circulation, ils savent quel train a eu telle alarme, donc après ils cherchent à me contacter pour savoir si j'ai pas fait un malaise ou en tout cas pour savoir ce qui se passe. Et au bout de 30 secondes, tu vas entendre un autre type de sonnerie, c'est le même principe, c'est là parce que je suis resté sur l'appui et si je le relâche pas, même principe, au bout de 5 secondes, il freine d'urgence. C'est super.
Allez, 16h27, départ.
En unité simple, sur d'autres lignes, on peut être à 2 ou 3, là c'est jusqu'à 1500 personnes.
Donc là, c'est toi qui viens d'appuyer sur le bouton
là,
pour fermer.
Ouais, j'ai appuyé, j'ai fermé les portes, je fais d'autres vérifications, j'ai pas mal de voyants aussi. Pour moi, tout est fermé, tout est bon, on est à l'heure, et devant moi, j'ai un signal qui est ouvert, on peut y aller.
Le trajet entre Lyon-Perrache et Saint-André-le-Gaz dure environ une petite quarantaine de minutes. Je vais donc tenter de condenser et vous partager les moments les plus importants de ce voyage.
Le frein desserré, je me suis lancé, tu vois, on est à 5 km/h, là c'est tout doux. T'as pas trop de bruit dans le bail. Je fais un petit essai de marche sur l'air pour être sûr que tout va bien. Et là on est parti. Prochain arrêt, toujours Massé.
Pour ne pas gêner Tommy dans sa conduite, je suis resté à une certaine distance. Le bruit en cabine n'aidant pas, il vous faudra tendre un peu parfois l'oreille pour tout comprendre.
Voilà, là, t'as d'autres sons aussi. Hein. T'as ce petit bruit d'échappement d'air que tu viens d'entendre. Je sais pas si tu l'as
Ouais, si, devant. Là.
Celui-là, il est assez régulier. Ce sont les graisseurs boudins. La roue du train, elle a un boudin à l'intérieur de la voie qui maintient la roue, qui l'empêche de dérailler en fait.
D'accord.
Qui descend un petit peu sur le côté du champignon du rail. T'as ça à l'intérieur de l'essieu. Et l'intérieur du boudin est graissé, il y a un petit gicleur en fait qui envoie de la graisse régulièrement pour limiter au maximum le bruit en fait dans les courbes. À Rieux, là, il faut que j'ai passé Saint-Quentin-Falavier pour accès à la grande vitesse, etc. C'est de la grande ligne droite et c'est légèrement en pente. J'ai suffisamment de pente pour arriver à Lyon sans jamais tractionner.
Ah oui.
Je sais que j'ai juste à gérer les phases de freinage pour être en bonne vitesse à certains endroits. Mais ma connaissance ligne fait que je sais que dans ce coin-là, là, en revenant sur Lyon, si j'ai un pépin, il y a peut-être moyen que j'arrive quand même jusqu'à Lyon.
Donc ça veut dire que chaque conducteur doit être habilité à conduire une ligne, une seule ligne. Enfin, alors, une ou plusieurs.
Plusieurs, mais en tout cas, tu dois être habilité sur les lignes de tournement. Moi, dans mon roulement, je peux aller jusqu'à Grenoble, Avignon, Mâcon, Clermont-Ferrand, Port-en-Bresse, Saint-Étienne, Paris-Monial, Saint-Germain-des-Fossés pour aller à Clermont ou à Nevers. Et comme je suis conducteur intercité, je vais aussi jusqu'à Saint-Pierre-des-Camps.
2-3 minutes plus tard.
Ça croisé par un TGV. Allez, t'as attaché ta ceinture. Qui nous attend et assez, après c'est assez droit jusqu'à une bifurcation. La Bif Marseille et Bif de Satolas, en fait on va arriver à une zone où on a patiné un peu.
Ouais, c'est
ce que... On va arriver dans une zone où on peut accéder à la ligne à grande vitesse ou en sortir. Là on est à 120, on commence à entendre un peu les fenêtres siffler. On arrive sur la section de séparation. J'ai ouvert mon disjoncteur, laissé le pantographe. Je vais actionner des manettes sur ma gauche. Je vérifie certains voyants en face de moi. Là, on est pantographe baissé, on est en marche en l'air. Et là, voilà, on passe, on vient d'arriver sous la ligne 25 000 volts alternative. Et là, je vais relever mon pantographe. Donc, ça, c'est un engin particulier qui relève tout le temps le pantographe 25 000 volts. Pour capter quelle tension il y a dans la caténaire. Et en fonction, il va rester levé parce que là c'est du 25 000 volts. Et si c'était du 1500, bah, il descend et il fait monter l'autre pantographe qui est adapté à l'autre tension.
D'accord, parce qu'il y a deux pantographes sur la.
Oui, un pantographe par tension, en tout cas pour ce matériel. Le pantographe 25 000 volts, il est en carbone, il est plus. Il n'y a qu'une bande d'usure par exemple. Le pantographe continu. De façon plus classique, il est en cuivre et il est graissé et il y a deux bandes d'usure. La caténaire est différente, il y a deux fils de contact en 1500 volts continu parce qu'il y a beaucoup plus d'ampérage. Faire décoller un train corail et l'emmener en vitesse, c'est autour de 2000-3000 ampères qui sont tirés dans la caténaire. En 25 000 volts, c'est une plus grosse tension, donc il y a beaucoup moins d'ampérage qui sont tirés. Et du coup, tu n'as besoin que d'un seul fil de contact. L'usure, elle est beaucoup plus faible et le pantographe, il est un peu allégé aussi.
Et là, pourquoi on a perdu en vitesse? Il y avait une limitation?
Parce que pour faire l'heure, je dois monter à 160 km/h. Et quand je passe la section de séparation, là où je passe de 1500 volts à 25 volts, l'outil qu'on t'a présenté tout à l'heure, là, le Sirius, la tablette que j'ai devant moi, j'ai une fiche train dessus avec plusieurs informations, les vitesses limites, des points kilométriques, les établissements que je dois desservir, les horaires, etc. Et j'ai aussi une vitesse qu'avant on appelait la vitesse de référence. En gros, ça me dit à peu près à quelle vitesse je dois aller et à quel endroit et à quel moment je dois couper mon effort traction pour être à l'heure dans la prochaine gare. Pour être à l'heure, il faut que je respecte cette marche. Si je suis en retard, bah, au lieu d'être en marche sur l'air à partir de la section de séparation, bah, je vais reprendre ma traction, je vais remonter à 160 jusqu'à mon freinage. Donc, je vais rouler plus vite que ce qui est prévu.
Et un train comme ça lancé à 160, ça freine en combien de temps si, alors, je parle de freinage, pas de freinage d'urgence, mais de freinage
de service. Pour s'arrêter dans une gare, tu vois, ouais. On va freiner autour de 1000 mètres pour desservir les gares, pour que ça soit confortable pour les gens et qu'on ne tape pas trop dans le matériel, qu'on n'use pas trop le matériel ou l'infrastructure. À 160, si tu commences à avoisiner quand même des hautes vitesses, c'est un matériel qui est léger, qui fait quand même 270 tonnes à peu près, il faut l'anticiper un peu plus là, il faut freiner au moins 1200 mètres, et généralement on freine encore en amont. Par contre s'il se met à pleuvoir, ou si je traverse une zone avec beaucoup de feuilles mortes et tout ça, je vais anticiper encore. On s'adapte en permanence, et on anticipe aussi. Voilà, tout se passe bien, on est à l'heure, il n'y a pas de soucis sur la ligne, Il y a du monde, mais là tout le monde est déjà descendu, donc j'attends juste un petit peu pour partir, tu vois, 16h50 et 50 secondes. Je ferme 10-15 secondes avant l'heure de départ pour être prêt pile à l'heure pour partir. 51, porte fermée. Rien ne s'oppose à ce que je reparte.
Et alors du coup, c'est quoi le cursus qu'il faut faire pour devenir conducteur de Raid de GD?
Il y en a plusieurs, je pense.
Ouais.
Moi j'ai 37 ans, depuis l'école primaire je voulais conduire, donc j'ai orienté ma scolarité pour ça. Et très vite j'ai su que un BEP, un CAP, un bac pro suffisait. Moi je suis allé sur la filière bac. Dès que je l'ai eu, j'ai postulé, j'ai pas pu rentrer tout de suite à l'attraction, je suis rentré ailleurs à la SNCF, mais parce que j'étais dans une époque où ça embauchait pas à l'attraction. Maintenant, en ce moment, ça m'étonnerait qu'on y arrive pas parce qu'on est
ouais. Des gros besoins. Il y a de la demande en ce moment.
Un bac technique, c'est quand même ce qui est préconisé. Tu vois, faut quand même avoir un peu de compétences en calcul mental, tout ça, on n'est pas des mathématiciens. Mais il faut savoir gérer plusieurs choses en même temps. Il faut savoir comprendre facilement des notions de base en électricité, etc. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Par expérience, parce que je suis aussi moniteur, j'ai avec moi des fois des stagiaires qui sont en école. À force de discuter avec eux, je me rends compte qu'il y a des profils complètement variés. T'as des chefs d'entreprise qui ont décidé de changer de vie. T'as des anciens militaires, t'as des gens qui avaient une filière littéraire, tu vois. J'exagère à peine, t'as des bibliothécaires. Je pense que la SNCF, elle cible pas d'ailleurs certains métiers ou certaines compétences, certains diplômes. Quelqu'un de très diplômé, par contre, c'est sûr que ça peut être peut-être compliqué. Par contre, ce qu'elle a besoin, c'est de te tester, ce qu'on appelle les tests psychotechniques. Essayer de voir si tu es capable de suivre la formation et si tu es adapté au métier aussi. Donc, tu vois, les horaires décalés, les aspects techniques. Je te disais à l'instant qu'il faut être capable de gérer plusieurs choses en même temps. Là, tu vois, je suis en train de te parler, ce qui est quand même relativement inhabituel. Je parle pas autant quand je conduis. Mais en même temps, je suis capable de gérer mon point de freinage. Là, tu vois, on est en train de s'arrêter à la vapille. Si on est en situation perturbée, je vais peut-être pas te parler à ces moments-là.
Parce qu'il faut être
concentré. Si quelque chose en cabine, je suis capable de couper ma conversation et te dire attends, là j'ai autre chose à gérer, etc. Il faut être concentré et je connais par cœur, je connais très bien mon matériel, le règlement que je dois appliquer. Le règlement, c'est pas que certaines procédures, c'est aussi un comportement dans plein de moments de ma journée. De ma prise de service à ma fin de service, il y a plein de choses que je dois respecter. Là je te parle, mon téléphone il est coupé, il risque pas de sonner, tu vois. C'est pareil pour mon chef qui est derrière nous. Il y a des choses comme ça qui sont réglementaires. Et il faut les avoir en tête pour pouvoir travailler correctement et en sécurité. Si tu arrives à passer ces tests, à répondre correctement aux bonnes questions, à réussir certains tests que tu fais, tu vois, des calculs mentaux, des tests de mémoire par exemple, des tests sur des logiciels particuliers. Moi je me rappelle très bien. Ça ressemble un peu à un jeu vidéo en fait, t'as des manomètres, des barres graphes, il se passe plein de trucs, des pressions et t'as des manettes et on te donne des règles. On te dit ce voltmètre, il faut pas qu'il aille dans le rouge, quand il va dans le rouge, il faut que t'appuies sur le bouton. Et en même temps, t'as un autre manomètre avec d'autres choses, il faut gérer des pressions, il faut gérer plein de choses en fait en même temps. Et apparemment j'ai réussi parce que du coup ça intéresse les formations. Voilà, tu vois, il y a plusieurs aspects comme ça qu'on va vérifier. Et si c'est même analysé par un psychologue aussi, et par des recruteurs, etc. Des cadres, traction, entre autres. Et il détermine si tu peux suivre la formation. On ne sait pas du tout si tu vas y arriver, mais on met un maximum de chances de nos côtés, c'est une formation qui coûte très cher. Et on essaye de mettre des profils adaptés en formation. Il y a entre 1000 et 1500 élèves qui sont mis en formation chaque année en France. Et c'est une tierce de bêtises, je pense qu'on est plutôt autour de 1000, voire moins de 1000, qui arrivent au bout des formations et qui deviennent conducteurs d'entraînement.
2-3 minutes plus tard.
Et selon toi, est-ce que conducteur de train, c'est un métier solitaire ou pas?
C'est quelque chose qu'on dit, c'est vrai. Maintenant, dans le fret, par exemple, dans la marchandise, peut-être beaucoup plus. Ils ont pas, ils transportent pas d'humains, ils vont pas dans des gares voyageurs, etc. Ils ont des horaires aussi complètement différents. Ils sont un peu plus à l'envers par rapport à la société, ça a quand même plus de nuit.
maintenant, ma prise de service à ma fin de service, je croise quand même du monde, que ce soit des cheminots ou des usagers, tu vois. J'ai pas l'impression. Je vais faire plusieurs trains, je vais changer de goût, c'est là que je vais avoir l'occasion de croiser un peu de gens, mine de rien. Je trouve que c'est moins solitaire que ma femme qui travaille dans un bureau, par exemple, qui a quand même quelques collègues, etc., mais qui a toujours les mêmes collègues, par exemple. Nous, on est plus de 200 conducteurs à l'OPH. Régulièrement, je croise des gens, j'ai du mal à savoir s'ils sont là depuis longtemps ou pas. Tu vois. Quand je vais sur des lieux de débouché, je vais croiser d'autres collègues, d'autres dépôts, ainsi de suite. Je vais croiser les contrôleurs qui viennent d'autres lieux de la région, voire d'autres régions. C'est mine de rien, mon bureau, il est en permanence en train de bouger. Je suis tout le temps en train de me déplacer. Je ne suis pas assis toute la journée. Cette journée, j'ai pris mon service et j'ai récupéré un train directement en gare. Parfois, il faut que je prenne un transport en commun ou que j'aille à pied pour aller jusqu'à un lieu de garage ou un technicien de maintenance pour aller chercher mon matériel, me préparer de façon plus complète que ce que tu as vu là. L'emmener en gare, faire un aller-retour Saint-Andéaz et après partir avec un autre matériel sur une autre ligne à Avignon, par exemple. Et dormir à Avignon, le lendemain rentrer. Il y a des journées comme ça qui sont assez variées. On va aller tout le temps sur la même ligne, on va faire 5 ou 6 trains. Et d'autres, on va faire un aller-retour Saint-André-de-Gaz et je sais pas, un aller-retour Mâcon ou Valence.
La chose la plus difficile dans ton métier, c'est...
Le truc que je mettrais en haut de la liste, c'est les conditions de travail par rapport aux horaires. C'est pas rien de travailler en horaire décalé en permanence. Moi, je suis pas en 2-8 ou en 3-8, et ça a d'autres particularités, ces horaires-là. Moi, je travaille jamais, je prends le service toujours à des horaires différents. Là, j'ai pris à 15h45, demain, je vais prendre à 7h37, etc., etc. Tu vois, je suis de soirée, demain, je suis de matin. Les jours suivants, je peux être de journée, de matinée, de soirée. C'est tout le temps décalage, en fait. Et ça, physiologiquement, c'est pas rien. Quand t'es jeune, c'est plutôt acceptable. Et encore une fois, ça dépend des dépôts. T'as certains roulements où tu fais beaucoup de matinée. Tu te lèves très régulièrement, très tôt. Moi, dans mon roulement, là, je travaille plutôt de journée et de soirée. Ça sert à me lever très tôt. Du coup, je suis moins habitué. Et quand de temps en temps, j'ai des journées où je dois me lever à 3h du matin, voire même un peu plus tôt, c'est assez rare. Mais t'as des journées où il faut que je me lève un peu avant 3h pour prendre le service. Et bien, ça, c'est très dur à encaisser. Là, t'as fini ta journée de service, après, t'as juste une envie, c'est de dormir. Mais on a des vies sociales à côté, des enfants.
La chose la plus cool, c'est ce que tu me disais tout à l'heure.
La plus sympa, c'est très varié, mais moi ce que j'aime bien dans ce métier, ça n'a quasiment rien à voir avec le métier. C'est la passion que ça induit chez les gens, et les plus jeunes notamment. Donc, tu vois, ces horaires-là, il est 17h, c'est là que tu vas avoir des gens de faire tourner. Tu vas avoir des enfants qui t'attendent au grillage pendant une demi-heure. Je sais qu'il y a des parents qui doivent souffrir. Parce que tu as des enfants qui sont capables de forcer leurs parents à aller voir les trains. Après, l'autre côté, je me déplace beaucoup. Et suivant les horaires de la journée, on a une vue magnifique. Là devant moi, j'ai des bois, des arbres qui sont aux couleurs d'automne un peu. Le soleil s'est déjà un peu couché, mais on a un ciel rose et quasi une pleine lune juste au-dessus. Quand il se met à neiger, t'es dans Star Wars. Tu vois, avec les phares, il fait nuit et t'as les flocons de neige qui sont pris par les. L'aérodynamique, là, il n'y a rien qui touche le pare-brise, mais tu as l'impression d'être dans un vaisseau spatial qui fonce à la vitesse de la lumière à travers l'espace. Là, et c'est assez sympa. Tu vois, tu as des petits trucs comme ça. En hiver, tu as des collègues qui adorent être le premier train à partir le matin parce que la voie, c'est immaculé, c'est blanc. Tu vois pas les rails. C'est assez sympa. Tu as l'impression de flotter au-dessus de la voie.
Nous voici arrivés à Saint-André-le-Gaz. Il est temps de descendre du train. De rejoindre l'autre cabine pour repartir dans l'autre sens.
Là, les pantos, ils sont où sur ces machines-là ?
Il y a à peu près au milieu.
D'accord.
On va remonter le train. Ça fait partie des choses qu'on surveille quand on remonte le train par l'extérieur. Tu vois. Qu'il soit en bon état, qu'il n'y a rien d'accroché dedans d'anormal. Une bâche, une branche. Sur le côté du train, il n'y a pas de vitre cassée, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur bizarre, de dégagement de chaleur. qu'on pourrait ressentir facilement. On aurait un essieu freiné serré, par exemple, ou une boîte d'essieu chaude.
Ouais.
C'est haute température qui passe à côté, ça sent le métal chaud.
Ouais, carrément. 17h38,
ça, c'est un peu le... C'est vraiment le quotidien du conducteur de train de voyage.
D'accord, ouais.
C'est faire des trains, arriver au terminus, changer de côté et repartir dans le train.
Attends, je suis trop là. Ouais, c'est un train qui a des voitures avec des salles hautes et basses, comme dans les TGV duplex là.
C'est pas la même configuration ici.
Non, il y a un côté PMR bah, là où on est.
D'accord, ok.
Donc il y a un toilette qui est plus grand, il y a beaucoup plus d'espace et au niveau des sièges qui sont derrière la cabine,
okay.
T'as des boutons d'appel SOS UFR. Et allez, on recommence. Je vais faire un dernier essai et après je vais t'installer, je t'avais promis de. Parce qu'on aura plus le temps après.
Ah là là là. Ça, je l'ai pas entendu tout à l'heure.
Ah oui, parce qu'on n'entend que d'un côté.
Ah.
Donc là, t'as eu la. Ce qui se passe en cas de freinage d'urgence par l'automatisme, par l'équipement de sécurité. Donc la vidange de la conduite générale et l'ouverture du disjoncteur. Et là, je vais le refermer, tu vas l'entendre.
On sent que c'est pas le même courant qu'il y a à la maison quand même. Hein.
Non. Bah, c'est le même dans le sens où c'est la même fréquence.
Ah ouais, mais on sent qu'il y a quand même plus de puissance. Hein.
La tension.
Là tout de suite. Ouais, ouais. Ça... T'as pas envie de mettre tes doigts dedans quand même là.
Là techniquement, Tommy peut se lever aussi. Pour aller carrément mettre la tête à la fenêtre. Quoi.
Ah oui, tu m'avais dit pour regarder tes feux, non?
Ouais, carrément.
Généralement, quand je suis accompagné de mon chef, tu vois, je lui demande. Et là, on est dans une courbe à gauche, donc je vais demander à Seb, il va ouvrir la fenêtre qui est derrière toi, puis il va jeter un coup d'œil dans la courbe à gauche, tu vois l'entièreté du train. Et il va s'assurer que personne n'est accroché dessus, qu'il n'y a pas d'étincelles, tout se passe bien.
Parce que d'habitude, c'est toi qui le fais, mais alors comment tu t'occupes, comment tu fais ça avec la veille?
Je choisis l'endroit, déjà. Je le fais pas n'importe quel endroit, si on est un peu dans les signaux et tout, je ne vais pas trop le faire là. Et tu as des appuis à côté des fenêtres, il y a des boutons et je peux maintenir mon appui
à côté. Et là, ici, là. Là, ah. Tu vois, ça c'est l'appui là.
Ok,
pour
d'accord.
Tu vois,
regarde, je vais lâcher. Quand tu vas entendre le son, tu vas appuyer.
Ça c'est l'appui VA qui doit.
Tu vas arrêter.
Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc ça te permet comme. Et en dessous aussi c'est pareil?
En dessous c'est pour la gestion des portes.
Ouais. Pour les fermer ça.
Ah, d'accord.
Les portes voyageurs.
Okay. Tu peux les fermer même en étant.
Sur le côté.
Ouais.
Si on résume un petit peu le métier de conducteur, c'est vraiment. Conducteur de train, c'est vraiment de l'observation et de l'anticipation en fait.
Ouais, puis piloter une machine assez imposante, assez technique, mais franchement c'est vraiment accessible. Ouais, c'est rigolo parce que tu vois, j'ai une minute et demie de retard, et quand je ferme les portes, il y a encore des gens qui courent. Et,
c'est qu'ils sont déjà. Tu es tolérant toi ou tu...
Non, parce que je suis tolérant.
Est-ce que...
C'est dans ma nature, finalement.
C'est vrai.
Après,
t'as la limite.
En règle générale, hein. Ouais. Mais dans mon métier, après, il y a des limites.
Ouais.
Là, j'ai une ou deux minutes de retard, celui qui est déjà sur le quai, qui se dépêche, je l'attends. Celui qui est à l'autre bout du parking et...
Oui, non, mais bien sûr, j'entends bien.
J'aimerais bien. Et encore, ça dépend des horaires. Un samedi matin, où il n'y a pas un chat sur la ligne et tout, suivant l'endroit où je suis, je sais que je peux arriver à Lyon à l'heure.
Okay.
Et il n'y a pas de correspondance avant Lyon. Donc l'important, c'est d'arriver à Lyon à l'heure. Parce que les gens ont peut-être un TGV ou un avion à prendre. Donc, si je suis trop près de Lyon et je sais que je vais prendre plus de retard, je ne vais pas le faire. Ou alors je suis en heure de pointe sur des axes qui sont très fréquentés, c'est pareil, je ne vais pas le faire. Après, des fois, tu as des gens qui courent et... non, qui sont mal. En fait, moi j'ai 2 minutes d'arrêt, ils arrivent en courant dans le train, ils auraient marché, ils auraient aussi réussi à prendre le train.
ouais, mais bon.
C'est ça. Ils sont habitués à être en avance. Ah non, voilà. Il faut pas qu'elles se mettent en danger. Et voilà, bloquer les portes par exemple, ça c'est puni d'une amende. J'ai pu monter en tête. C'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout, parce que déjà ça retarde les trains. Dans un complexe comme Lyon, retarder un train de 30 secondes,
ouais,
ça a un impact sur le croisement d'un itinéraire avec un autre train. Il va prendre des signaux fermés au lieu d'avoir de la voie libre. Il va devoir freiner, arriver à faible vitesse au signal suivant. Et au lieu de perdre l'espace 5 ou 10 secondes, tu vas perdre ses 30, 45, voire 1 minute.
Ouais, et puis après tu rajoutes, et tu rajoutes.
Ainsi de suite sur d'autres points. Et ça fait un peu effet boucle d'oreille. Ouais. Ça, en heure de pointe, bah, t'as un TGV qui a 5 minutes. Qui va lui-même retarder d'autres trains parce qu'il est plus important qu'un TER qui n'amène personne à Lyon et qui va dans une campagne, tu vois, qui ramène juste des gens chez eux. J'en ai fait deux choses. Mmh. Et un impact aussi sur le matériel. Tu peux casser la porte, tu peux la mettre en panne. Si tu arrives à résoudre le problème, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, le train ne pourra peut-être plus partir. En tout cas, pas avec des voyageurs à bord.
La fin de cette belle expérience approche. Un énorme merci pour Tommy, Sébastien, Nicolas, correspondant handicap et emploi, ainsi que toute la direction régionale Aura de la SNCF, sans oublier Laurent, coordinateur au sein de Cap 38. Un duo d'air, rappelons-le, qui n'aurait jamais pu voir le jour sans toutes ces personnes investies.
Moi ça. Yep.
Départ de Lyon-Jean-Massé en ZTER 2N, changement à Valence, arrivé 19h52, départ 20h17, à bord d'un corail tracté par une BB22 1200, pour une arrivée à Saint-Marcellin à 20h56.
C'est bon, ouais. Merci beaucoup, Sam.
J'espère que ce petit épisode vous aura plu, parce qu'à moi, oui.
Bon, Alex, bon voyage.
Ouais, merci beaucoup, hein. Merci pour tout.
Ciao, c'était Manu, dans Audio de bord.
Et si on gardait le contact ? WhatsApp 06 20 59 38 97. Instagram, Facebook, Twitter, @dpkprod. Ou via le www.dpkprod.eu.
Alors, ça va? Ça se passe bien? Pour moi, pareil. Tu l'aimes, ce podcast, hein? Ouais, moi aussi. D'ailleurs, je me disais, vu que tu l'aimes tellement, ce podcast, tu pourrais le soutenir, non? Un petit don ou même un spot pub? Je le savais. Allez, contacte vite Mani et merci d'avance.